dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance.
Joseph Hula
et Dany Joulier.
Et voilà, on est arrivé. 125 boards aujourd'hui. Il est 17h, c'est très très bien. Petit spot tranquille. J'ai croisé un petit fermier en tracteur. Je lui ai demandé avec des signes si je pouvais dormir là. Il m'a dit pas de soucis. Du coup, c'est nickel. Voilà, j'ai une coupe de fou furieux. On dirait que je peins avec mes pieds. Mais voilà, on est bien, on est pas mal. Ça va l'attraper des poissons ce soir là. Non, je rigole. Ben voilà, allez, ciao ciao, je suis fatigué, je suis mort. Je fais n'importe quoi aujourd'hui.
Parce que quand tu voyages à vélo, le contact humain est très simple. Parce que quand tu voyages à vélo, t'as besoin de choses simples, donc à manger, un endroit où dormir. Quand on voyage à vélo, faut un peu être à l'arrache, parce que c'est comme ça que tu vas rencontrer des gens, tu vas vivre des situations des fois pas super compliquées, mais qui vont en fait être super bénéfiques pour toi. De garder ce qu'on peut garder et puis d'essayer de chérir ce qu'on a connu avant et ce qu'on peut plus connaître maintenant.
Son goût de l'aventure, son idéal de liberté illumine son regard.
Jolan Carlucci Speri serait-il un jeune homme aux semelles de vent, comme l'écrivait Verlaine parlant de son ami Arthur ?
Marchant sur les traces de Jack London et d'Arthur Rimbaud, c'est à l'âge de 19 ans que Jolan enfourche son vélo pour parcourir plus de 10 000 km en solitaire.
Explorant les chemins, les petites routes buissonnières d'Asie du Sud-Est, de la Thaïlande jusqu'en Chine, pour aller à la rencontre des gens.
Vivre de réels moments d'échange et d'humanité.
Pour y découvrir une vie saine, non pourrie par le capitalisme et empreinte de liberté.
Semelle de vent, oui, mais pas pour fuir, non.
Plutôt pour aller à la rencontre des regards vrais, des silences qui parlent, des mains qui accueillent sans poser de questions.
Dans Dissonance,
pendant une heure,
Jolan nous fait partager son choix de vie, cette fin du dehors, cette nécessité d'éprouver le monde avec ses mains, ses jambes, sa solitude, à l'écart des voies toutes tracées.
Nous donnant à entendre ses enregistrements glanés au cours de son périple en solitaire, tout en se livrant, avec sensibilité, sur ce qui pousse un jeune à partir à la poursuite de ce que beaucoup désirent, sans jamais l'atteindre.
Une vie simple, libre, gratifiante, riche de rencontres sincères.
Une vie qui n'a pas besoin de promettre, parce qu'elle offre déjà tout.
L'humanité au bout du guidon.
Avec Jolan Carlucci Speri.
Sur Dissonance.
Je m'appelle Jolan Carlucci Speri. J'ai 20 ans. Et j'adore le voyage à vélo. Des voyages assez longs, en autonomie totale. Tout ce qu'il faut pour dormir, me faire à manger. Et mes motivations, c'est d'abord ma mère qui m'a fait découvrir le voyage à vélo quand j'avais 12 ans, je crois, avec des premières randos à vélo très simples, très accessibles, au bord du canal du Midi. Et donc, chaque année, on allait faire des petits tours à vélo. Et puis, j'ai commencé à faire mes premiers tours à vélo un peu avec des sacoches en autonomie à 18 ans. Et après, à 19 ans, j'ai décidé de faire mon grand voyage en Asie du Sud-Est. Je dors dehors la plupart du temps avec une tente. Et donc dormir en tente, c'est pas assez compliqué. Faut juste être sûr de l'endroit. Par exemple, je demandais beaucoup dans les champs si j'arrivais à voir des maisons au loin ou proche du champ ou des paysans qui se baladaient, leur demandaient assez simplement, des fois juste avec les mains, hein, un signe des mains, faire le signe d'une tente, le signe de dormir. Et puis j'étais très content. Et puis même des fois, ils m'apportaient un petit truc à boire le soir. Mais voilà, ça se passait très bien.
Oui, parce que pour les auditeurs, quand tu dis dormir sous une tente, c'est pas dans un camping, c'est dans la nature, du bivouac, quoi.
C'est ça, complètement au milieu de nulle part, des fois, avec de quoi faire à manger, tout ce qu'il faut, planter la tente, la remettre, et puis essayer de trouver des endroits avec de l'ombre, ou quand il fait froid, avec du soleil, essayer de s'adapter, quoi. C'est vraiment de l'adaptation, quoi. Et ben mon premier grand voyage, je l'ai fait avec ma mère. J'avais 16 ans et c'était incroyable. C'était en Thaïlande. On avait prévu de faire la Thaïlande, le Laos, le Vietnam, le Cambodge, puis retourner en Thaïlande pour rentrer. C'est ça. Et donc, on a fait ça avec ma mère, sauf que, manque de bol, c'était pendant le Covid. Et donc, on a été bloqué en Thaïlande. Et donc, on a fait juste un tour en Thaïlande, mais pendant 6 mois. Donc, on a eu le temps de voir la Thaïlande pour de vrai. Et 6 mois à vélo, pareil, avec les tentes. Après, comme j'étais un peu plus jeune, des fois on a pris quelques hôtels, mais c'était très très bien. On a fait le tour de la Thaïlande plein de fois. À un moment, on était resté bloqué dans une province parce qu'au moment où le Covid il était très haut, ils ont bloqué les provinces, mais une province c'est énorme, quoi. Ça fait le double de la taille d'un département en France, donc t'as de la place pour faire du vélo, quoi. Il y a des kilomètres à faire, des endroits à découvrir.
Et c'est quoi qui te plaisait ? C'était le contact avec les habitants ? C'était de découvrir des lieux inconnus, notre culture ?
C'est un peu tout ça. C'est beaucoup le contact humain, en fait. Parce que quand tu voyages à vélo, le contact humain est très simple. Parce que quand tu voyages à vélo, t'as besoin de choses simples. Donc à manger, un endroit où dormir. Tu t'arrêtes dans d'un petit boui-boui, si tu veux. Par exemple, hop, au Laos, au bord de la route. Et puis tu parles un peu avec les signes, parce qu'ils ne peuvent pas trop parler anglais des fois, ou quelques mots c'est compliqué. Donc hop, on s'arrête un peu, on parle, et puis là ils nous disent restez dormir ici. Ok, on reste dormir, mais par contre hop, j'achète 2-3 trucs pour manger, hop, je leur donne. Et puis c'est un échange, quoi. Moi on m'a invité quelques fois, mais quand on m'a invité, j'essayais jamais d'avoir les mains vides. Même quand il n'y avait pas de choses à acheter autour. Par exemple, un jour, on m'a invité au bord. J'étais perdu après la frontière du Vietnam, dans les montagnes, là. Je ne trouvais pas d'endroit où dormir. Et à moi, il y avait un petit endroit plat. Mais c'était à côté d'une maison. Donc, j'essaie de voir s'il y a quelqu'un. J'y vais, je demande si je peux dormir là. Et là, mais spontanément, naturellement, ils me disent « Ben non, tu ne vas pas dormir là. » Hop, regarde, hop, ils me font un lit, mais... En un quart d'heure, j'avais un bon lit de fée et j'étais stupéfait, quoi. Et donc, dans ces moments-là, il n'y a pas de magasin autour, je ne peux pas acheter de choses pour leur offrir ou quoi. Donc, j'ai pioché dans mes chacos et puis j'avais, par exemple, des barres de céréales, des trucs comme ça, quoi. En fait, c'est juste pour avoir un moment de partage, quoi. Et puis, eux, ils ont sorti de la viande, je pense que ça doit être des exceptionnels, quoi, qui mangent une belle pièce comme ça, et puis ils l'ont sorti là, parce que j'étais là. Enfin, tu te sens très honoré, mais il y a un petit sentiment de étrange quand même. C'est assez compliqué à vivre au début, parce que t'as l'impression d'être un peu de trop, ou il y a un sentiment d'étranger d'un pays qui est pauvre, et toi qui en soi tu fais un voyage à vélo, mais t'as quand même de l'argent sur ton compte, tu peux rentrer à n'importe quel moment, financièrement tu es très à l'aise par rapport à eux, mais eux ils pourraient tout te donner, en fait. À l'instant où ils te rencontrent, ça se voit dans les yeux aussi, dans le regard. Il n'y a pas du tout une appréhension de l'étranger, justement. C'est un... Et encore plus en randonnée vélo, ils t'accueillent, mais Mais à bras ouverts, et c'est incroyable, quoi. C'est...
T'es pas vu comme quelqu'un de riche, comme quelqu'un d'aisé
Bah justement, à vélo, il n'y a pas du tout ce regard-là. Parce que moi, après, il n'y a pas de souci à voyager en bus climatisé et d'arriver dans un hôtel. Voilà, les gens, ils voyagent comme ils veulent, mais le regard des habitants, il n'est pas du tout pareil à quelqu'un qui arrive en bus climatisé que quelqu'un qui arrive en sueur, assoiffé, à vélo, qui a galéré pendant une journée... qui a eu deux crevaisons avec les mains toutes noires, et il n'a pas eu tout le même regard, non, c'est sûr.
Donc là, tu évoques le second voyage que tu as fait tout seul, mais comment s'est passée la transition entre, c'est quand même pas pareil, entre un voyage ouais. que tu fais à deux, tu te sens peut-être plus en sécurité, ou quand tu es tout seul ?
Eh ben, la transition, elle a été un peu dure. Après, entre les deux voyages, on a refait quelques voyages à vélo avec ma mère.
Des petits voyages, parce que quand tu parles de voyages, il faut qu'on soit d'accord, c'est des kilomètres,
Non, quand je dis voyage, ça peut être comme une semaine au bord du canal du Midi, ou après le grand voyage en Thaïlande, avec ma mère, on a fait des petits tours en France, et puis ce qui a beaucoup beaucoup aidé la transition, c'est que le mois avant de partir en Thaïlande, avec mon frère aîné, on est allé en Sardaigne un mois à vélo, tous les deux. Et donc ça aide beaucoup pour la transition, parce que lui, il a fait un grand voyage à vélo. Il est parti de Perpignan, dans le sud de la France, et il est allé jusqu'en Turquie. Et après, il a pris le bateau pour aller en Espagne, il est rentré, mais tout à vélo, quoi. Et c'est impressionnant, il est parti 8 mois. Et donc c'est ça aussi qui m'a donné envie... de le faire, et donc on a fait ce voyage en Sardaigne un mois, et puis après le voyage en Sardaigne, je me suis dit allez, c'est le moment, et je suis parti.
D'où ça vient cette histoire de vélo dans la famille? C'est dans les gènes? Parce que ton frère, ta mère, toi?
Ouais. Bah, je sais pas si c'est dans les gènes, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on partage et qu'on aime. On adore ce sentiment de liberté. Le voyage à vélo, c'est assez particulier, parce que en soi, en sac à dos, à pied, t'as aussi ce sentiment de liberté, mais beaucoup moins qu'à vélo, parce qu'à pied, si t'as envie de faire beaucoup de kilomètres, bon, bah, tu peux en faire 30, mais sur une carte, tu vas pas avancer énormément. Alors qu'à vélo, bon, bah, si t'as envie de faire beaucoup de kilomètres, bah, tu te lèves à 5 heures et tu fais 100 km en une journée, et là, bah, ça t'avance. Mais si t'as envie de faire 30 km à vélo en une journée, bah, tu peux le faire aussi, en fait. Et c'est ça, moi, enfin, en tout cas, qu'on aime beaucoup, c'est... En fait, le vélo, c'est tellement libre, et tu peux tellement prendre ton temps, qu'il y a plein de genres de voyages à vélo différents, en fait. Il peut y avoir des personnes qui ont juste de quoi manger la journée, et qui dorment en hôtel le soir, et qui ont un vélo de course, et qui font 170 km tous les jours, et ça, c'est leur voyage à vélo. Ils vont faire ça pendant 2 mois, et ils vont adorer. Et puis il y a des personnes un peu comme moi, qui vont être avec... 5 sacoches, la tente, chargée comme une mule, et puis aimer la douleur, parce que dans les montagnes, faut envoyer, quoi. Mais j'adore totalement, quoi. Et puis, je pense que je pourrais m'essayer à un autre mode de voyage à vélo, mais celui d'avoir tout ce qu'il faut pour dormir et se faire à manger, je trouve ça. Ce sentiment de liberté, on le ressent encore plus que n'importe quoi. Quel autre mode de déplacement, en fait?
L'humanité au bout du guidon,
avec Jolan Carlucci Sperry
sur Dissonance.
Donc là, tu es libre de t'arrêter où tu veux, d'aller à la vitesse que tu veux. Tu n'as plus de contraintes. Est-ce que dans la vie de tous les jours, tu aimes les contraintes ou tu adores la liberté? Et quelles sont les contraintes que tu détestes?
Là, on sort du vélo totalement, mais c'est vrai que les contraintes, ça c'est... Je trouve qu'on vit dans un monde où on a de plus en plus de contraintes et de moins en moins de liberté, en fait. Et je pense que les gens, ils ressentent ce sentiment de ne pas avoir de liberté, d'être renfermé à un emploi, en fait, ou à une tâche, quoi. Et je trouve ça assez dur. Enfin, en tout cas, moi, de mon plein gré, je n'irais pas faire un travail... dans un bureau, j'aime beaucoup le contact avec la nature, avec les gens, donc naturellement, en fait, j'irai faire un travail dehors, mais c'est plus facile qu'à dire qu'à faire, et malheureusement, beaucoup d'offres d'emploi sont en intérieur et des tâches répétitives qui sapent le moral, quoi, donc voilà.
Donc vive le vélo, instrument de liberté. Moi, je fais beaucoup de marche à pied et je me sens libre parce que je n'ai que mon sac à dos et moi. Toi, tu as quand même ton vélo, c'est-à-dire que tu dépends d'une crevaison, tu dépends de s'il y a un problème, c'est pas une chaîne à ton désir de liberté, le vélo.
C'est une très bonne question parce que quand j'ai fait mon voyage tout seul en Asie du Sud-Est, au bout de 2 mois, je disais on parce que mon vélo rentrait dans l'équation, en fait. Et mon vélo, c'était quelqu'un, en fait. C'était, non, je ne lui ai pas donné de prénom. Mais j'étais pas très loin de lui donner un prénom. Parce que, en fait, c'est toi qui pédale, mais c'est lui qui te fait avancer, quand même. Et donc, tu essayes d'en prendre soin encore plus à vélo parce que tu es chargé. Donc, comme tu es chargé, tu forces plus sur la chaîne, le dérailleur. Donc... Et puis oui, il y a eu plein de crevaisons, mais à chaque fois tu trouves une solution. Et puis en fait, c'est vraiment tu voyages avec lui aussi, quoi. Moi, je dis que mon vélo, il a fait le tour de l'Asie du Sud-Est, quoi.
Parle-nous de ce grand voyage en Asie du Sud-Est. Donc, tu prends l'avion quelque part en France avec ton vélo.
Alors, non, j'ai pris l'avion à Toulouse jusqu'à Bangkok, donc la capitale de la Thaïlande. Et 2 semaines avant de prendre l'avion, j'ai acheté mon vélo sur le site de thaïlandais Decathlon.
Un vélo normal.
Et un vélo, c'est un gravel, ça s'appelle. C'est le mélange entre un VTT. Et un vélo de route. En fait, ça a le profil et l'allure d'un vélo de route, mais ça a des pneus un peu plus larges et avec des crampons sur le côté et plat au milieu. Donc sur la route, t'avances et sur les chemins, t'avances. Tu peux pas faire du sentier, mais ça avance très bien et c'est ce que je voulais parce qu'on peut. C'est fait pour être chargé, on peut mettre du poids dessus. Donc j'ai acheté ça et après j'ai eu la chance. Grâce au réseau Warm Shower, qui est un réseau de voyageurs à vélo où tu peux t'inscrire pour accueillir des gens chez toi, des voyageurs à vélo, ou tu t'inscris pour être reçu chez d'autres personnes qui accueillent aussi. Et donc grâce à ça, j'ai pu communiquer avec quelqu'un qui habite à Bangkok, un Anglais, et du coup j'ai pu faire livrer mon vélo chez lui. Et donc ça c'est royal, hein, parce que du coup t'arrives là-bas à l'aéroport, t'es fatigué du trajet, tu prends ton taxi, et là j'arrive, je vois le carton de mon vélo, on boit le café, et puis je monte mon vélo. C'est incroyable.
Super. Tu avais un circuit déjà de préparer, de réfléchir, ou t'es parti à l'aventure?
Alors non, j'ai pas de circuit, moi je suis à l'aventure, je suis un peu à l'arrache, mais j'aime bien. C'est, je trouve que quand on voyage à vélo, faut un peu être à l'arrache, parce que c'est comme ça que tu vas rencontrer des gens, tu vas vivre des situations des fois pas super compliquées, mais qui vont en fait être super bénéfiques pour toi. Et non, j'aime pas du tout planifier. Je sais qu'il y a beaucoup de voyageurs à vélo qui vraiment planifient, mais presque à l'endroit ils vont manger le midi. Mais moi, je suis pas du tout comme ça. Non, je le fais au feeling. Je Je me dis, bon, bah, aujourd'hui j'ai fait tant de kilomètres, j'ai avancé de ça. Là, il y a une ville qui a l'air super sympa. Bah, il reste tant de kilomètres. Bon, bah, si j'y arrive à le faire demain, tant mieux. Et si j'arrive pas, bon, bah, il me restera 30 kilomètres le jour d'après. Et puis voilà.
T'avais pas une date de retour avec un billet d'avion ?
Eh ben, j'avais une date de retour parce que je trouve que c'est important d'avoir une date de retour pour quand même être un peu cadré avec ça, parce que moi j'aurais pas de date de retour, je serais encore sur mon vélo et je pourrais même pas vous parler maintenant. Donc, non, j'ai une date de retour et j'avais un plan de pays que je voulais visiter. Donc en fait, je voulais refaire ce qu'on aurait fait s'il n'y avait pas le Covid avec ma mère. Donc Thaïlande, Laos, Vietnam et Cambodge. Mais comme je suis un peu à l'arrache et que je faisais un peu le jour, quand j'étais au Vietnam par exemple, j'étais à la frontière de la Chine et puis le visa chinois pour les Français, il est passé de 15 à 30 jours gratuits. Et ben je me suis dit, bah, la Chine ça a 2 jours de vélo, et ben je vais passer un mois en Chine. Et donc je suis allé en Chine un mois. Et puis c'était super parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que des fois... Quand on n'a rien prévu, on peut arriver dans des situations super compliquées, mais qui vont être super bénéfiques. Moi, je suis arrivé en Chine et j'avais plus aucun réseau de nulle part, parce qu'en Chine, il n'y a pas Google. Et Google, il y a beaucoup de choses qui marchent avec Google, comme la traduction, par exemple, Google Translate. Ça marche avec Google. Et là-bas, mais même si tu as la Wi-Fi, Google, ça ne marche pas. Et ben, j'ai fait un mois de Chine en langage des signes avec les Chinois. Des fois, il y en a qui parlaient très bien anglais, mais dans les milieux ruraux, c'est compliqué. Et donc, pour manger, je me baladais dans les restaurants, je regardais ce qu'il y avait sur les assiettes. Ce qui est sympa en Chine, c'est qu'il y a beaucoup de... Dans les restaurants, il y a beaucoup d'images de plats sur les murs dans le restaurant. Donc, on peut... Donc, des fois, je me baladais, je rentrais, je disais bonjour. Je savais dire bonjour en chinois. Donc, dès que possible, je le disais. Je savais dire merci aussi, je le faisais. Et donc je me baladais, hop, ça a l'air bon, je vais prendre ça, allez s'il vous plaît.
Et l'accueil de ces Chinois milieu rural, ils étaient habitués à voir arriver des cyclistes ?
Des cyclistes, je pense pas, parce que les voyageurs à vélo en Chine, il n'y en a pas beaucoup, et c'est un peu mal perçu. Dans le sud, ça va beaucoup mieux, mais je sais que dans le nord, il y a beaucoup eu d'histoires avec carrément des fois des voyageurs à vélo qui se baladaient en Chine du Nord et qui ont été suivis mais pendant 2 semaines par la police. Et la police les suivait et campait avec eux presque. Donc nous, moi, ça ne m'est pas arrivé. Dans le sud, c'est beaucoup plus tranquille. Mais dans les milieux ruraux, des fois, il y avait des personnes un peu âgées ou même des jeunes, des fois, qui tu sens une petite appréhension, qui te regardent un peu, pas d'un œil inquiet, mais un peu avec de la méfiance quand même. Parce que je pense qu'ils ne voient pas beaucoup d'étrangers. Et encore moins un étranger à vélo. Alors là, c'est un ovni... Pour eux, des fois, je pense, parce que moi je passais par des bleds, comme j'avais pas beaucoup d'itinéraires, je disais bon, tiens, ce chemin il a l'air cool, je le prends. Et puis des fois, j'arrivais dans des endroits avec un magasin et 6 maisons, et des fois, ils te regardent un peu bizarrement quand même, parce que qu'est-ce qu'il vient faire là, le mec, tu sais, il a pas d'autre chose à faire quoi. Il est perdu total là. Et puis des fois, je pense, il se demandait même si est-ce que j'allais bien, si j'étais pas perdu, non. Je me balade et puis... J'avais pas de carte précise en tout cas, j'avais Organic Map.
Ah d'accord.
C'est avec quoi j'ai voyagé pendant mon tour. En fait, tu peux télécharger les cartes à l'avance.
Ah d'accord.
Et donc c'est assez précis. Le problème c'est quand en Chine, c'est précis mais pas complet quoi. C'est-à-dire que... par exemple, à Bangkok, sur Organic Map, t'as les 7-Eleven, donc des supermarchés assez connus qui appartiennent en Thaïlande, marqués. Donc ça, c'est assez pratique. Mais en Chine, il n'y a rien de marqué. En fait, il y a la carte avec les routes, il n'y a pas les chemins, mais c'est tout. Et dans les villes, il y a le nom des villes marquées en chinois. Ça aide, mais ça aide pour au moins une direction, quoi. C'est une boussole presque, en fait. Mais c'était sympa. Franchement, j'ai beaucoup aimé la Chine. Je suis allé à Hainan, c'est une île en Chine, la plus grosse île de Chine. Et j'ai fait le tour de l'île, ça fait 1000 km. Et c'était super sympa. Hein. J'ai fait le tour et c'est très connu par les Chinois pour faire des tours à vélo autour de l'île. Et donc, en fait, je croisais mais des groupes de randonneurs à vélo, des groupes organisés, tous le même vélo, et super content, mais des groupes de 15, et moi j'étais avec mon vélo tout sale parce que je me lavais dans la mer avec le sable. Et du coup, c'était une super expérience, j'ai croisé plein de personnes à vélo, bah, c'est l'endroit où j'ai croisé le plus de randonneurs à vélo, mais je m'y attendais vraiment pas, quoi.
L'humanité au bout du guidon
avec Jolan Carlucci-Sperry
sur Dissonance.
Et dormir dehors, c'est accepté en Chine, en Asie du Sud-Est, dans ces pays-là, Cambodge, Laos,
Thaïlande, Thaïlande, Vietnam, c'est très facile. C'est pas mal vu, faut juste être poli en fait. Moi, à chaque fois, si j'arrivais à voir quelqu'un, je leur demandais. Et puis, si j'arrivais pas à voir quelqu'un, bon, bah, je me planquais un peu. Mais on m'a jamais dit de partir ou quoi. Mais par contre, en Chine, j'ai jamais tenté à un endroit où je pourrais être vu. En Chine, notamment autour de l'île, là, j'ai fait le tour de l'île, donc j'étais au bord de la côte. Et pendant tout le tour de l'île, j'ai dormi au bord de la plage et je me baignais dans la mer. Et là, je ne me suis pas fait embêter, mais parce que j'étais pas visible, quoi. Enfin, personne ne pouvait me voir.
Et ce périple, il a duré combien de temps? Combien de mois? Combien de semaines?
Il a duré 8 mois. Donc c'est super long, 8 mois. C'est incroyable. Tu as le temps de faire des kilomètres. Et je voulais faire 8 mois parce que, en fait, tu as le temps, 8 mois, tu peux... Si tu as envie de rester à un endroit que tu aimes bien, tu peux y rester une semaine, mais tu auras le temps de continuer ton voyage, quoi.
Il est arrivé que tu proposes de tes services à une famille qui t'a hébergé pour travailler?
À un moment, dans un champ, j'ai posé ma tente et j'ai croisé un fermier qui gardait ses zébus. Ses zébus, c'est comme des buffles un peu, et avec des super beaux yeux, super ronds, noirs. C'est une bête assez grosse, assez imposante, mais super tranquille. Et donc, il gardait ses zébus. Et puis, moi, j'ai proposé de mettre ma tente. Il m'a dit OK. Et puis, le lendemain, il m'a réveillé avec ses zébus. Et puis, naturellement, en fait, j'ai discuté un peu avec lui. Et pendant que je discutais, j'ai gardé les zébus. Et au final, j'ai fait ça toute la journée. Et ça m'a super plu. Il m'a donné un bâton, pas pour les frapper, hein, mais juste pour taper un peu le sol, des fois, quand il s'écarte trop. J'ai eu ça. Et après, par exemple, si on m'hébergeait dans une petite maison, je faisais de la vaisselle, naturellement. Et puis, pareil, j'essayais de donner ce que je pouvais. Et puis, voilà. Mais après, la plupart du temps, c'est refusé quand même. Hein. C'est ça qui m'embêtait aussi. C'est que, en fait, on me donne tout, on m'héberge. Et des fois, tu veux donner, et ils n'acceptent pas. Et donc là, je me retrouvais, on m'a offert le repas, on m'a offert la nuit. Et moi, je vous donnais un peu d'argent et vous refusez. Tant pis, mais merci. Mais des fois, je me sentais un peu mal par rapport à ça. Mais voilà.
Et quand tu as traversé le Vietnam ou parcouru le Vietnam, est-ce qu'il t'a été évoqué la difficile période de la guerre du Vietnam dans les années 70?
Dans les grandes villes, il y a beaucoup de mémorials. À Ho Chi Minh, j'ai fait le musée de la guerre. C'est assez connu. C'est aussi assez horrible comme endroit. En fait, il y a tous les moyens de torture que les soldats américains utilisaient sur les Vietnamiens. Il y a aussi des enregistrements audio avec le bruit des avions et des bombardements. Et du coup, c'est assez horrible, mais...
Et le Cambodge aussi qui était en guerre. Hein.
Ouais, ben le Cambodge, le camping sauvage, faisait un peu attention parce que au nord du Cambodge et au sud du Laos, il y a pas mal d'endroits où il reste des mines en fait, et donc ou des obus qui n'ont pas explosé. Donc je faisais un peu attention. Je me baladais pas dans le champ en courant quoi. Je mettais mes tentes à des endroits où bon je voyais des animaux un peu pâturés. Bon là ça va être bon. S'il y a pas un zébu qui explose devant moi, ça devrait aller pour moi je pense quoi. Mais je faisais pas attention. Ouais.
Et pourquoi l'Asie du Sud-Est? Parce que tu avais fait ta première grande randonnée en vélo avec ta mère. Mais il y a d'autres sites magnifiques. Il y a l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord.
Pourquoi l'Asie du Sud-Est? Bah parce que j'avais cette très bonne expérience avec ma mère. Et en fait, c'est tellement accueillant que je voulais y retourner tout seul pour vraiment sentir le truc à fond. Quoi, parce que quand tu es tout seul, les gens ils viennent te voir encore plus qu'en groupe ou quoi. Mais j'attends avec plaisir de refaire un voyage en Asie, en Afrique. L'Afrique, ça me tente beaucoup. Après, à vélo, ça peut être difficile des fois, je pense, surtout pour l'eau. Et la nourriture à des endroits, je pense, c'est des grandes distances et des fois c'est des grandes routes tout droites dans la savane ou dans la pampa et ça doit être pas marrant. Mais ça doit être super enrichissant aussi.
Alors Jolan, j'ai une question qui me taraude. Dans quel état d'esprit tu reviens après 8 mois de liberté, de découverte, de rencontre? Tu te dis, ça y est, je rentre.
Et oui, quand tu rentres, ça fait bizarre. Hein. En fait, c'est pas méchant, hein, mais les Français, les Européens en général. Hein, mais en fait, là-bas, tu t'arrêtes un café, tu bois un coup, et puis les gens ils viennent te parler, quoi. Mais alors qu'ils te connaissent pas, et des fois tu peux discuter une heure.
Oui, tu me parlais tout à l'heure de quelqu'un avec qui tu avais parlé pendant 2 heures,
ouais,
et qui t'avait joué la guitare après.
Ouais, c'est ça. C'est au Vietnam, dans une auberge de jeunesse. J'étais en train de nettoyer mon vélo dehors. Moi, je le fais assez souvent, c'est important. Et donc, et à la terrasse, je vois un Vietnamien qui me regarde. Moi, je lui fais coucou. Et puis là, il me fait coucou. Et puis il descend. Et puis il essaye de me dire un peu bonjour, comment ça va en français. Donc je lui réponds, je trouve ça amusant. Et puis après, il parlait très bien anglais. Et puis au final, il m'a invité à boire le thé. Et puis on a discuté mais pendant 2 heures. Il m'a joué de la guitare. C'était incroyable. Quoi. C'était un peu sur les hauteurs en plus. Et on était sur sa terrasse avec la vue sur la baie d'Along. C'était un moment de suspens, quoi.
Poupée de cire. Je ne connais pas beaucoup.
Chinois.
Ah. Mon père fait de la musique aussi. Le métier de mon père. Est musicien.
Père.
Musicien. Oh. Il fait de la musique africaine. You know? Africa? Africa musique.
Ah.
If you want, I can, you can listen. If I have song of my dad, if you want.
Il y a des gens, quand ils font un périple comme ça, ils font soit des photos, soit ils écrivent, soit ils enregistrent. Toi, tu écrivais.
J'ai fait beaucoup de photos et je m'enregistrais aussi en train de, en vidéo, en train de dire ce que je faisais. Voilà, comme un journal intime un peu en vidéo. Et donc j'ai fait ça. J'ai essayé de faire un compte Instagram aussi, mais j'ai essayé de faire une vidéo tous les jours. Mais le compte Instagram, vers la fin du voyage, il a été abandonné total parce que une vidéo par jour, c'est juste impossible.
C'est une contrainte.
Ah bah oui, c'est une contrainte à vélo. Attends, le mec, il fait un voyage à vélo, il se pose une contrainte. Non, mais du coup, c'était marrant parce que mes amis, par exemple, qui me suivaient beaucoup sur Instagram, ils adoraient ça. Mais moi, à des moments, j'avais pas de connexion. Donc, au bout d'un moment, j'ai juste arrêté. Par contre, j'ai continué de faire plein de photos. Et j'ai fait quelques enregistrements aussi quand il y avait des trucs un peu intéressants, mais c'est sonore et visuel.
Mais justement, comme on est à la radio, est-ce que tu aurais 2-3 enregistrements à nous faire écouter pour nous mettre dans l'ambiance avant de continuer?
Oui, bien sûr. J'ai un enregistrement, c'est des grillons, un chant de grillons, mais ça prend les oreilles, mais limite... elle bourdonne, c'était pour aller voir Angkor Wat au Cambodge. C'est un site mais impressionnant, c'est majestueux, c'est super grand. Et j'y suis allé avec mon vélo et sur le chemin, c'est un chemin tout droit pour y aller. Et les grillons, mais c'est impressionnant, tu les entends super fort. Mais d'ailleurs, pendant tout mon voyage, j'ai entendu des grillons. Des fois, même le soir, j'avais des boules caisses, mais tu les entends super fort, quoi, ces grillons. Et un autre son, des moines dans un temple en Thaïlande, un chant de moines. J'ai enregistré de quand j'ai dormi dans un temple en Thaïlande, et c'est assez incroyable. J'ai mangé avec eux après, et voilà. Mais c'est les moines, c'est un amour complet. En Thaïlande, ils sont tellement avenants, en fait. On pourrait pas croire comme ça, mais c'est des fois ils parlent super bien en anglais parce qu'en fait les moines c'est un état d'esprit. C'est là-bas tout le monde peut être. Si quelqu'un a envie de devenir moine, il peut devenir moine. Donc par exemple, il y a des jeunes qui ont arrêté les études et qui sont devenus moines, et du coup c'est des jeunes qui habitaient à Bangkok, qui faisaient des études de tourisme, donc ils parlent un anglais mais fabuleux, hein, ils sont moines, et du coup tu fais des conversations avec des moines folles, et après ils t'invitent à dormir dans le temple, donc tu poses ton matelas à côté d'eux et tu dors avec eux, quoi. Il y a un jazz club à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, et c'était super comme ambiance. Bon, là c'est un peu plus jazzy, hein, mais ça envoyait, c'était super cool. Je venais de passer dans le nord de la Thaïlande, je venais passer 2 semaines dans les montagnes, et là j'arrive à Chiang Mai et il y a du monde partout, des touristes partout, et ce jazz club, c'est super bien.
Dans la sueur, la graisse et le bruit.
l'humanité au bout du guidon.
Avec Jolan Carlucci-Sperry.
Sur Dissonance.
Donc tu prends l'avion et tu reviens en France. Et là tu dis que tu retrouves des gens, des Européens qui sont un peu plus fermés que les gens de l'Asie du Sud-Est.
Ouais. Ouais, beaucoup plus fermés même. Après c'est... On a un peu été éduqués comme ça aussi. On n'a pas du tout été éduqués pour être ouvert aux autres, être dans l'accueil. Donc ça fait bizarre. Et puis il y a aussi cette question de bon bah je fais quoi maintenant ?
Oui,
parce que je rentre et je sais pas quoi faire parce que j'ai eu mon bac, tout va bien, j'ai un peu travaillé avant, il me reste un peu d'argent de côté. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Et donc ça, c'est la grande question. Je suis rentré pendant l'été. Et donc j'ai fait des recherches tellement longues pour essayer de trouver des formations intéressantes en France ou ailleurs. Et là, j'ai trouvé une formation au Canada, au Québec, c'est en Gaspésie des Îles. Et c'est une formation pour être guide touristique en milieu naturel. Et donc voilà, coup de cœur là-dessus. Je vois qu'il y a deux places réservées pour les Français, c'est des classes de 20. Donc un petit coup de stress, je tente quand même. J'envoie ma candidature. Bon, j'ai quand même un beau dossier parce qu'avec les voyages à vélo, etc., je me disais que peut-être j'avais ma chance. Et hop, je reçois ma lettre d'admission et là, c'est super content. Et donc voilà, je suis encore à cette étape-là maintenant et j'attends avec impatience d'y aller. Moi, ce qui me passionne, c'est le contact humain. Donc, guide touristique, c'est génial comme travail.
Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as d'autres projets en vélo bientôt, de grandes traversées ou... Tu m'as parlé tout à l'heure d'un azimut entre les Pyrénées et le nord de la France.
C'est ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu deux jeunes qui ont fait ce projet-là. Et ça m'a donné vachement envie. C'est un azimut, donc ça veut dire que c'est du sud au nord. Et en fait, la France est assez particulier géographiquement. On peut vraiment tracer une ligne du point le plus au sud et du point le plus au nord. Et c'est extrême nord, azimut complet. Et ça donne vraiment envie. Et du coup, pour l'instant, c'est une idée. Hein, mais j'aimerais bien essayer de commencer à pied. Donc, toutes les Pyrénées dans le sud à vélo, c'est assez compliqué. Surtout que comme c'est tout droit, des fois, tu fais du hors-sentier. Et après, prendre mon vélo et finir en essayant d'être le plus droit possible, donc avec les sentiers, etc. Mais ça pourrait être bien, ça fait 1000 km, donc comme je ne vais pas aller tout droit non plus, ça va faire 1002, je pense. Mais ça peut être une belle expérience. En France, je n'ai jamais fait un voyage aussi long, donc voilà.
Mais tu vas rencontrer des gens fermés alors ?
Eh bien, je vais rencontrer des gens fermés, je vais être dans ma tente tout seul. Ouais. J'espère rencontrer d'autres gens à vélo, peut-être le faire avec mon cousin aussi, qui est très aventure aussi, qui fait beaucoup de voyages sac à dos, un peu de voyages à vélo. Voilà, et puis, oui, je vais rencontrer des gens fermés, mais je ne serai pas du tout, je pense, dans le même état d'esprit qu'en Thaïlande, parce qu'en Thaïlande, j'avais pas d'itinéraire en fait. Et là, j'aurais un itinéraire, un objectif un peu, et puis je trouve que c'est un peu plus challengeant. Quoi. Voilà.
Il y avait le Jolan d'avant ce grand voyage de 8 mois, puis après, il y a le Jolan d'après. Est-ce que tu as trouvé des différences et qu'est-ce que tu as appris ? En quoi ça t'a rendu plus mature ou plus ouvert aux autres ou plus encore sensible à la notion de liberté ?
Ouais, c'est sûr, ça m'a. Après, je pense de le voir par nous-mêmes, c'est assez dur. De voir un changement, mais j'ai ressenti quelques changements. Ouais, je suis beaucoup plus ouvert aux autres, j'ai l'impression, beaucoup plus dans la conversation. Et en fait, là-bas, c'est des personnes qui ne se prennent pas la tête. En fait, ils font ce qu'ils ont envie. Et puis souvent, en fait, ils font des choses utiles.
C'est quoi que tu appelles les choses utiles ?
Des choses utiles, c'est travailler à la terre, travailler pour la famille. Des choses comme ça, et en fait ils se posent pas forcément la question de est-ce que si ça va rapporter beaucoup, est-ce que grâce à ça je vais devenir multimillionnaire. Non, en fait ils vivent un peu pas le jour, mais ils ont pas d'énormes objectifs en fait, et moi je trouve ça assez beau comme manière de vivre. Donc, j'ai pas envie de me fixer un objectif impossible. J'ai envie de faire ce que je peux faire dans le temps que j'ai. Et puis, si j'en ai marre de faire ça, bah, en fait, j'arrête et puis j'essaye de trouver autre chose, quoi.
Donc, tu as envie de vivre, de rencontrer des gens, de profiter de la vie sans abîmer la terre,
C'est ça.
sans thésauriser, sans.
C'est ça.
T'es pas du tout un capitaliste, quoi.
Non, je suis pas un capitaliste du tout, non.
Tu n'as pas l'esprit, en tout cas.
Non, je suis pas. Heureusement, tout va bien. Je pense que le voyage aux États-Unis, ça va pas être encore pour tout de suite. Mais.
Ah, tu as un projet de voyage aux USA?
Ça peut être sympa, mais le Canada m'intéresse plus quand même. À vélo, les étendues sauvages sont plus grandes, mais ouais.
On n'en a pas parlé, mais dans ces 8 mois à vélo, il n'y a pas eu une mauvaise surprise, quelque chose que tu n'as pas aimé?
Donc, ce que j'ai pas aimé, c'est en fait au tout début, le premier mois, il a été assez dur, parce que le mois d'avant, j'étais en voyage à vélo en Sardaigne avec mon frère.
Ouais.
Et c'était le paradis, quoi. Mon frère, je m'entends très très bien avec lui. Et puis il est très, très bon en voyage à vélo. Il a une super manière de penser. Vraiment, c'est un amour.
Il s'appelle comment ce frère?
Léo, et je l'adore. Ouais. Et donc, j'aimerais beaucoup en refaire un d'ailleurs. Ouais, j'avais cru. En fait, je sors de là. Je vais en Thaïlande, je suis super content et je commence mon voyage à vélo et en fait je me rends compte que je suis tout seul quoi. Je suis tout seul sur le vélo quoi. En fait, il n'y a pas mon frère à côté qui on se raconte des conneries. Le soir on se fait à manger ensemble et le premier mois ça c'était un petit choc, un petit coup de blues. Mais ça a vite passé. En fait, au bout d'un mois j'étais un peu bloqué et le mois d'après. Je rencontre du monde et puis là tout va bien en fait.
Et ton meilleur souvenir?
Et mon meilleur souvenir, c'est dur, il y en a plein de meilleurs souvenirs. Je pense c'est des campings un peu, enfin des bivouacs au bord de la côte vietnamienne qui était super super beau quoi. C'est incroyable cette côte-là. Et après, sinon, c'est beaucoup de rencontres en fait. C'est pas des souvenirs, c'est des rencontres avec des habitants d'un peu tous les pays, parce que dans tous les pays, j'ai été hébergé quelques fois et c'est des moments incroyables, quoi. C'est un moment de partage de culture, une différence culturelle énorme, mais en fait, on se ressemble tous parce qu'on est tous humains et donc on se retrouve tous quelque part, quoi. Et donc on se parle avec les mains ou on se parle avec le téléphone et des fois c'est marrant parce que le téléphone il fait quelques conneries de traduction donc c'est pas tout à fait juste et des fois tu dis quelque chose avec le traducteur, tu montres, et puis le mec il te regarde bizarrement, tu sais, et là tu copie-colle ce que tu viens de traduire en français, et puis là ça te sort une phrase complètement à côté de la plaque et puis là tous les deux vous avez compris et vous rigolez quoi alors que c'est des moments fous quoi.
Avant de finir, donc c'est ta maman et ton frère, enfin ta maman surtout qui t'a initié à cette pratique du vélo, que tu as pu faire assez ensuite avec ton frère. Si un jour tu as des enfants, tu les inciteras à prendre le vélo, à partir tout seul comme ça?
Bon, pour l'instant, c'est pas le projet d'avoir des enfants. Je sais pas si un jour ça va être le projet parce que le monde
Oui.
il est pas si il donne pas vraiment envie de. T'as pas envie de donner vie à quelqu'un avec un monde dans cet état, quoi. Donc, faut essayer de améliorer ce qu'on peut avant, diminuer les dégradations qu'on fait dans le monde humain ou naturel. Mais par contre, si j'ai des enfants un jour, oui, le voyage à vélo, ça sera une étape. Hein, ils n'auront pas le choix. Hein. Là, quand tu le prends, ton vélo, et puis on va faire un tour à vélo, quoi. Hein. Non, mais...
On oublie la liberté, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Allez, non, mais ça... Non, mais ouais, j'essaierai de les initier doucement au voyage à vélo parce que c'est fantastique, même juste avec une remorque quand ils sont petits là, derrière avec les sacoches sur le vélo, ça peut être une super expérience. Hein. Donc de toute manière, au voyage en général, je vais essayer de les voyage à pied, voyage à vélo, je vais essayer de les habituer. Si j'en ai, ouais, ça sera. En fait, c'est un partage de passion, donc c'est incroyable, quoi, je pense.
C'est un partage de passion, une invitation à rencontrer l'autre, à aimer les gens simples, à aimer la terre préservée. C'est marrant parce que je pense à ta maman qui est en train de travailler sur les cultures indiennes de l'Amérique du Nord. Il y a presque un parallèle à faire entre ce qu'elle fait, ce que tu fais.
Bah ouais, c'est vrai, on est dans ce truc de préserver ce qui est possible de préserver et se battre pour essayer de garder ce qu'on peut garder et puis d'essayer de chérir... ce qu'on a connu avant et ce qu'on ne peut plus connaître maintenant.
Belle conclusion. Merci beaucoup, Jolane, et bon séjour au Canada. Et tu viendras nous raconter tes futurs périples.
Avec grand plaisir, Joseph. À bientôt.
Et 1, 2, 3, et... Vélo va, vélo vole. La voix va où vélo va. Vélo vire, vélo volte. Où va la vie, vélo va.
Salut.
Et fraternité.
Belle voiture, beau camion, beau véhicule à locomotion, beau wagon, belle station, beau train à très grande vision, bel avion, belle fusée, belle station espacionnée, belle colcose de spationose. Bel espace de cosmos rose. Vélo va, vélo vole. La voix va où vélo va. Vélo vire, vélo volte. Où va la vie, vélo va. Belle moto, beau mécano. Spiderman, Superman. Belle bécane à arbre à cam, turbochrome d'échappement. Vélo va, vélo vole, la voix va. Où vélo va, vélo vire, vélo volte. Où va la vie, vélo va. Rien ne vaut le pédalo avec pédale et avec son zoo qui dévale la vallée avec sandales et avec ses pieds. Belle péniche, beau canot. Belle écluse, bon tirando, beau marin et beau matelot, mais rien ne vaut le vélo. Vélo va, vélo vole, la voix va où vélo va, vélo vire, vélo volte, où va la vie, vélo va. Vélo va, vélo vole, la voix va où vélo va, vélo vire, vélo volte, où va la vie, vélo va.